la fin du XXe siècle était le moment de la raison humanitaire, le début du XXIe marque l'heure de la raison sécuritaire. Celle du contrôle des flux, de la brutalité à l'encontre des exilés et même de la répression des acteurs de l'humanitaire. On stigmatise les organisations qui viennent en aide aux exilés en Méditerranée, on sanctionne les citoyens qui hébergent des étrangers en perdition comme dans les Alpes. Sauver des vies devient illégitime et condamnable. Didier Fassin est ce soir notre invité à l'occasion de son entrée au Collège de France où il occupera donc la chaire de santé publique. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec la merveilleuse Mercedes Sosa, Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. gracias a la vida.
Vous souvenez-vous, Didier Fassin, de la première fois où vous avez compris que vous étiez en vie ?
C'est une question difficile. Je pense que c'est quelque chose qu'on réalise par rapport à la situation d'autres, souvent. D'autres qui sont au bord de la vie, à travers, peut-être comme médecin, lorsque j'étais plus jeune, à cause de la maladie, ou qui sont au bord de la vie à cause des conditions sociales que leur société ou les sociétés dans lesquelles ils vivent leur font. Et il me semble que c'est dans ces situations-là qu'on se rend compte de ce que c'est qu'être en vie, mais peut-être aussi de ce que c'est que pouvoir vivre et tenter de vivre le mieux possible lorsque même on est confronté aux situations les plus difficiles, les plus douloureuses. Et c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé lorsque j'ai travaillé avec des migrants syriens à Calais, qui avaient fui la guerre dans leur pays, et des femmes zimbabwéennes qui étaient en exil en Afrique du Sud à cause des conditions de guerre et de famine dans leur pays d'origine. C'était la manière dont, dans les deux cas, malgré des conditions terribles qui leur étaient faites par les sociétés d'accueil, ils arrivaient à recréer du mieux possible une vie, et que donc ils n'acceptaient pas d'être rabaissés à la condition dans laquelle on voulait les maintenir. Et donc il y avait là une manière de défendre une dignité dans ces conditions, à travers la manière de s'habiller, d'arranger le lieu dans lequel il vivait très difficilement. Et donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très fort, et que probablement la chanson de Mercedes Sosa évoque, qui était de défendre quelque chose de la vie, même dans ces conditions.
Est-ce un droit de vivre ?
Alors c'est un droit qui est reconnu par beaucoup de constitutions dans le monde, et en même temps c'est un droit qui est menacé en de nombreux lieux de la planète. Ça peut être loin de chez nous, mais c'est vrai aussi dans les pays européens, où on voit à quel point, par exemple, les conditions extrêmement difficiles qui sont mises pour l'accès au sud de l'Europe pour des migrants qui, pour une partie, viennent du Moyen-Orient et pour une autre partie de la région sahélienne, et qui ont traversé des conditions extraordinairement difficiles, ont passé des années entre la prison, le désert, la vie nomade, une traversée de la Méditerranée où ils ont souvent vu des personnes se noyer autour d'eux, et voir que le droit de vivre dans les pays où qu'ils ont mis tant de temps et d'énergie à atteindre, que ce droit de vivre leur est refusé au fond, puisque il s'agit de les refouler, de les emprisonner. Il y a là quelque chose de très poignant et en même temps de très perturbant du point de vue des valeurs d'une société.
La vie aurait-elle moins de valeur aujourd'hui qu'avant ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense que c'est surtout que la valeur de cette vie, ou plus exactement la valeur de ces vies, est extraordinairement inégale, et que c'est une chose qui est en complet contraste avec, disons, une éthique assez largement partagée qui, dans les pays occidentaux en particulier, défend la vie à tout prix comme un principe abstrait dont on voit que, dans les faits, comme une réalité concrète, eh bien, cette valeur est extraordinairement différenciée selon les catégories sociales, selon la couleur de peau, selon la religion. Et ça se traduit du reste dans quelque chose qu'on appelle l'espérance de vie, même dans un pays comme la France. Si on pense qu'il y a 6 ans de différence d'espérance de vie à 35 ans entre les ouvriers et les cadres, mais que, et on vient de le montrer récemment, c'était jusqu'alors une donnée qui n'était pas connue des épidémiologistes et des démographes, qu'il y a 13 ans de différence d'espérance de vie entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, d'espérance de vie à la naissance, et on ne parle pas des extrêmement riches et des extrêmement pauvres. Et on parle là de 10%, c'est-à-dire des catégories entières. Donc quand on voit ces différences d'espérance de vie, eh bien, on comprend de façon, je dirais, très concrète, même si tout ne se ramène pas à une question de quantité de la vie, on voit que ces différences-là montrent l'écart qu'il y a. Du reste, un sociologue et un philosophe, Maurice Alvax et Georges Canguilhem, respectivement, avaient, il y a un demi-siècle, déjà identifié que la société a la mortalité, disait le premier, qu'elle souhaite, qu'elle mérite. Ce qui signifiait qu'on choisit au fond dans une société d'avoir la durée de vie qui convient. Et de le faire en fonction des catégories sociales, en fonction du sexe et d'un ensemble de variables qu'il est facile d'identifier ensuite avec des instruments quantitatifs.
Donc il y a des inégalités de vie devant ce que veut dire vivre.
Alors il y a des inégalités...
Alors qu'on pourrait croire que la vie est la valeur absolue en soi.
Pour les religions, et en particulier la religion chrétienne, pour les philosophies, il y a, et quelles que soient les tendances, il y a cette idée qu'il faut protéger la vie et que la vie a une valeur qui est absolue. Et pourtant, on se rend compte que dans les faits, il y a ces différences qui sont à la fois statistiques, comme je viens de l'évoquer, mais également, bien sûr, des différences dans la qualité des vies. Et du reste, c'est un paradoxe qui m'a longtemps intrigué, c'est que les femmes ont une espérance de vie qui est bien plus longue que les hommes. Et même quand on différencie, les femmes ouvrières ont une espérance de vie qui est plus longue que les hommes cadres. Et donc on pourrait se dire, les femmes sont extraordinairement avantagées. Quand on voit les conditions plus générales de vie des femmes, quand on voit le temps qu'il aura fallu pour obtenir des droits qui paraissent totalement évidents aujourd'hui, que ce soit de voter, d'ouvrir un compte, de pouvoir maîtriser son corps, eh bien, pour la contraception ou pour l'interruption de grossesse, eh bien, on se dit que la question de la quantité de vie ne peut pas être un élément suffisant pour comprendre ce que c'est que la valeur d'une vie.
C'est la qualité qui compte.
La quantité compte aussi, bien sûr, mais la qualité est importante parce que à travers la qualité se joue la question de la dignité que les personnes ont, mais que la société a envie de reconnaître à ces personnes. On le voit dans des formes extrêmes historiquement. Lorsque Orlando Patterson, un grand historien et sociologue états-unien, parle de mort sociale à propos de l'esclavage, eh bien, c'est de cela dont il parle. Il ne dit pas « ces gens-là vivent moins longtemps », ce qui était aussi le cas, mais il dit « ces gens-là n'ont pas une vie digne, une vie qui est pleine et c'est quelque chose qu'on peut évoquer aussi à travers la question de la prison et notamment des longues peines de prison où l'on voit que la qualité de la vie est considérablement diminuée par rapport à disons ce que pourrait être une vie normale. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très fondamental à penser à la fois la vie en termes quantitatifs, ce que les statistiques des épidémiologistes et des démographes nous permettent de faire, c'est très important. C'est très important, par exemple, aujourd'hui, dans le débat sur les retraites, mais également la qualité de vie qu'on est en mesure de reconnaître et de donner aux gens. Et il y a à l'évidence, aujourd'hui, en France, mais partout dans le monde, des gens dont la qualité de vie est extrêmement dégradée.
En tout cas, vous nous éclairez d'une autre manière absolument passionnante ce débat sur la réforme des retraites et sur la volonté de ce gouvernement de rendre universelle ce régime des retraites, alors que la spécificité de chaque vie, pour reprendre votre vocabulaire, Didier Fassin, est justement justifiable pour mieux comprendre ce que ça veut dire une vie.
Alors la question, effectivement, est moins celle des régimes spéciaux que celle des durées potentielles de retraite.
Mais la question de la vie.
Et bien sûr. Et la retraite de deux façons, à la fois en termes, là encore, de durée, mais aussi de qualité. Parce qu'on sait que les ouvriers ont non seulement une vie plus courte, mais une vie en bonne santé encore plus diminuée par rapport au cadre. C'est vrai également des femmes. Je disais tout à l'heure que les femmes ouvrières vivaient plus longtemps en moyenne que les hommes cadres. Mais si on dit vie en bonne santé, eh bien, il y a un écart de 6 ans en défaveur de ces femmes ouvrières par rapport aux hommes cadres. Donc, la question de la retraite, elle peut être universelle en termes de régime, encore qu'on voit qu'elle ne le soit pas déjà, puisqu'il y a toute une série de catégories qui vont bénéficier de régimes particuliers. Mais la question fondamentale, c'est comment pourrait-elle être universelle d'un point de vue de justice sociale. Et d'un point de vue de justice sociale, ça voudrait dire qu'on soit capable de prendre en compte, alors ça n'est pas facile, mais qu'on soit capable de prendre en compte non pas simplement la pénibilité du travail, qui est un élément certes important, mais de façon plus systématique, les espérances de vie différentielles. Et si on dit qu'il y a 6 ans de différence entre un ouvrier et un cadre, ça devrait pouvoir se traduire dans ce fameux âge pivot ou toute autre mesure du nombre d'années qu'on doit travailler ou d'un âge à partir duquel on peut partir à la retraite avec une retraite pleine. Donc il y a à la fois cette différence des durées de vie et il y a cette qualité de vie différentielle parce que les catégories les plus défavorisées, et notamment les catégories ouvrières, eh bien, partent en retraite déjà avec une santé dégradée.
Mais y a-t-il un universel qui vaille? Quand vous nous expliquez, c'est ce que vous avez fait lors de votre leçon inaugurale au Collège de France la semaine dernière, lorsque on sait que les inégalités sociales expliquent, éclairent et ne justifient en aucune façon les inégalités de vie.
C'est une chose effectivement que pendant longtemps on a dissocié. Il y a un fameux texte de Jean-Jacques Rousseau, le discours sur l'inégalité parmi les hommes, dans lequel il dit qu'il y a deux sortes d'inégalités, les unes physiques, les autres morales, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui sociales, et il dit qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Il n'y a aucune, ce sont deux choses complètement différentes. Et pendant longtemps, effectivement, on a pensé que, eh bien, certes, il y avait des gens qui mouraient avant ou qui mouraient après, mais ça n'était pas lié à leurs conditions sociales. Et ce qui s'est passé, c'est que, à partir du début du 19e siècle, on a commencé à avoir une intuition que la pauvreté pouvait être liée à une mortalité plus importante et à une espérance de vie plus faible. Et on a commencé à mesurer, on s'est rendu compte que c'était le cas. Et évidemment, avec l'amélioration des techniques statistiques, le développement d'enquêtes démographiques de grande ampleur, eh bien, on a été en mesure, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour la France, d'avoir des indications très précises sur ces écarts. Évidemment, ces écarts sont encore plus importants dans un pays comme les États-Unis.
Alors, vous enseignez aux États-Unis, à Princeton, pour être précise. Vous avez publié de nombreux livres. Le dernier, c'était La vie, mode d'emploi critique. Vous étiez venu, d'ailleurs, à cette émission parler de ce texte et de vos engagements. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez médecin. Vous êtes aussi anthropologue. Vous êtes intellectuel. Et je n'arrive pas à comprendre quel a été votre cheminement pour abandonner la médecine. Vous êtes plutôt intéressé à des médecines de l'urgence, vous êtes allé dans des pays où il y avait des gens en risque de mort, vous avez fait un travail humanitaire remarquable, et puis finalement, sans pour autant abandonner le terrain de la recherche anthropologique et philosophique, eh bien, vous n'exercez plus la médecine parce que peut-être pensez-vous que penser la vie, dans les deux sens du terme, P-E-N et P-A-N, c'est peut-être ce qu'il faut essayer de faire aujourd'hui en ce 21e siècle.
Effectivement, j'ai travaillé comme médecin clinicien pendant une dizaine d'années ou peut-être un tout petit peu plus, et puis ensuite à temps partiel dans une unité pour personnes qui n'avaient pas accès à des droits et qui étaient souvent des personnes en situation irrégulière, mais pas seulement. Donc à plein temps pendant 10 ans et à temps partiel pendant 10 ans encore, j'ai fait de la médecine clinique. Ça a été pour moi une expérience très importante qui, je crois même, me marque encore aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai eu le sentiment assez rapidement que la médecine ne remplissait pas complètement l'attente que j'avais du métier que je souhaitais faire et des engagements que je souhaitais avoir. Et donc, j'ai d'abord tenté quelque chose qui était plus collectif que la médecine individuelle, c'est-à-dire la santé publique, parce que je pensais qu'elle pouvait permettre de comprendre au niveau d'une collectivité comment les déterminants de la santé pouvaient opérer, comment des politiques de santé pouvaient corriger certaines disparités. Et puis là encore, j'ai, tout en trouvant tout à fait passionnant ce travail de santé publique, je suis resté un peu sur ma faim en matière de compréhension, en matière d'intelligence, si on peut dire, des phénomènes historiques, politiques, sociaux qui étaient en cause. Et l'anthropologie a été pour moi une façon l'anthropologie et la sociologie, de pouvoir mieux comprendre dans des contextes différents, de pouvoir mieux comprendre bien tous ces sujets dont nous parlons. Et au fond, peut-être, et ça a été la raison du choix de ce thème pour la leçon inaugurale « L'inégalité des vies » et du livre qui a précédé « La vie, mode d'emploi critique », c'est de me dire qu'au fond, une chose autour de quoi j'avais tourné pendant toutes ces années, d'abord comme médecin et puis ensuite comme chercheur en sciences sociales, c'était la question de la vie, et que ça méritait de prendre ce sujet, évidemment, immense et difficile, de le prendre à bras le corps. Et donc, c'est ce travail que j'ai réalisé à la fois à travers des enquêtes qu'on appelle ethnographiques, c'est-à-dire de présence longue sur des terrains de recherche, que ce soit dans des townships en Afrique du Sud ou bien dans une maison d'arrêt en France, ou dans des communautés indiennes d'Équateur. Cette approche du quotidien des gens qui permettait de comprendre leur vie dans sa dimension la plus élémentaire, la plus simple, et puis en même temps d'avoir ce recul que l'histoire et les sciences sociales plus généralement peuvent donner.
Vous êtes venu en France pour prononcer votre leçon inaugurale pour cette nouvelle chaire de santé publique, mais vous n'avez pas fréquenté que les hémicycles du Collège de France. Que faisiez-vous dans les Alpes, à la frontière entre l'Italie et la France ?
Nous avons commencé avec Anne-Claire de Fossé il y a depuis le début de l'année une recherche sur un thème que j'ai exploré depuis très longtemps, qui est celui des frontières et de l'immigration, et nous l'avons fait dans les Hautes-Alpes, à Briançon, où arrivent des exilés, migrants, réfugiés, qui sont souvent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest même, et qui viennent d'Italie, et qui passent par le col de Montgenèvre. Et il y a là des situations d'abord très contrastées entre l'été, où tout est vert, et l'hiver, où la neige rend le passage particulièrement difficile et il y a eu des morts et il y a eu des engelures qui se sont soldées par des amputations de membres inférieurs. Sur cette frontière, il nous semblait intéressant de regarder ce qui se passait, c'est-à-dire à la fois de comprendre le dispositif répressif qui était mis en place par, bien sûr, la police aux frontières, mais également toute une série d'autres forces de gendarmerie et de police qui ont été mobilisées, notamment lorsque les passages étaient plus importants. Et dans ce même endroit, de voir la multiplicité des solidarités qui se sont mises en place, d'abord avec la création d'un refuge, et parallèlement avec des familles d'accueil qui se sont spontanément proposées, avec cet esprit de la montagne qui est de dire on ne peut pas laisser mourir les gens dans la montagne. La montagne ne peut pas tuer. Et donc il y a une espèce de force tranquille de ces gens qui souvent n'avaient, pour en tout cas une partie d'entre eux, n'avaient jamais eu d'engagement particulier sur les questions de migration, et tout d'un coup on sentit qu'ils avaient une responsabilité par rapport à ça. Et donc nous travaillons à la fois dans le Briançonnais et puis également de l'autre côté de la frontière, à Oulx et dans la région d'où viennent ces personnes. Et c'est là, alors il y a bien sûr ces acteurs dont je viens de parler, les acteurs qui sont chargés de la répression, les acteurs qui sont qui mettent en œuvre la solidarité, et puis bien sûr il y a les exilés eux-mêmes, dont les histoires sont souvent tout à fait tragiques, et qui arrivent dans un moment qui est assez intéressant, parce que au fond le gros du flux des migrants traversant la Méditerranée est passé. C'était 2015-2016. Aujourd'hui on a des chiffres qui sont très faibles, mais les gens continuent à venir d'Italie en France parce qu'en Italie la situation est devenue insupportable pour eux. Alors malheureusement, le sort qu'il aurait fait en France n'est guère plus enviable, et on voit que certains partent en Allemagne, d'autres partent en Angleterre et d'autres partent aujourd'hui en Espagne. Et je crois que ça dit beaucoup de l'incapacité dans laquelle la France aujourd'hui, qui s'est cru pendant longtemps le pays des droits de l'homme, est capable d'accueillir des personnes qui sont, pour un grand nombre d'entre elles, des demandeurs d'asile, mais qui peuvent être aussi des migrants dont on sait par l'expérience à la fois de notre pays, mais de l'Amérique du Nord ou d'autres pays européens, combien ils peuvent apporter à l'économie et à la richesse de notre société.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Didier Fassin, Mia Borders.
Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, I'm Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them.
Pardon pour ma ringardise. Heureusement que vous êtes là, Didier Fassin, et heureusement aussi que les garçons de l'autre côté de la vitre me corrigent. On dit M-A-I. Merci pour cette chanson, Borders, les frontières. Elle vous intéresse depuis longtemps. Ce qui occasionne votre venue en France, Didier Fassin, c'est la création de cette nouvelle chaire de Collège de France, consacrée à l'inégalité des vies. Votre chaire s'intitule « La santé publique ». Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, ça va pas bien. Que pensez-vous de cette réaction du corps médical et de l'évolution de la médecine de santé publique? Comment estimez-vous cette santé publique en France?
Si vous voulez parler de la crise des hôpitaux et du système de santé, le fait que des médecins en grand nombre, 1200, annoncent leur démission, qui certes ne se traduira pas par un départ des hôpitaux dans lesquels ils travaillent,
fonction et de leur statut, c'est la première fois dans l'histoire de la santé publique.
Absolument, et en tout cas, et ce sont des médecins de tous bords, et cela montre la situation dramatique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les hôpitaux et l'absence d'écoute dont ils bénéficient de la part du gouvernement. Les mesures qui ont été annoncées étant très insuffisantes, dans la mesure où d'un côté on prend et de l'autre côté on donne, mais on donne moins que ce qu'on a pris juste avant. On est là dans une situation qui est dans le court terme extrêmement difficile pour les médecins, pour les personnels paramédicaux, pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans les hôpitaux et bien sûr par ricochet pour les malades. Mais je crois qu'il faut bien voir que au-delà de cette crise, ou plus exactement dans le, ce que ce qu'annonce cette crise, c'est une profonde transformation du système de santé qui est voulue par ce gouvernement, mais qui avait déjà été engagée par les gouvernements précédents. C'est une déqualification par un appauvrissement des ressources du système public, et donc le déplacement d'abord des malades les plus fortunés vers le système privé, et puis on peut le craindre, à un moment donné aussi, des personnels, c'est-à-dire des médecins, des infirmières, qui ne peuvent pas rester dans un environnement où à la fois ils n'ont pas les moyens de travailler et ils ont l'impression de ne pas être reconnus. Donc je crois qu'il y a une situation qui est très grave, qui a été probablement comprise par la ministre de la Santé, mais qui n'a pas été suivie par le gouvernement. Et c'est donc quelque chose qui va bien au-delà des difficultés financières et même de ressources humaines, parce que ça annonce un bouleversement de notre système, qui est quelque chose que qu'on connaît bien dans d'autres pays, en Amérique latine, aux États-Unis. Les choses fonctionnent comme ça. Vous avez un système public qui est très déficient, dans lequel vont les pauvres, et vous avez tout un système privé, parfois rattaché à des entreprises, parfois complètement à but lucratif, et dans lequel vont les personnes qui sont qui ont les moyens. Et je dirais que la France pouvait s'enorgueillir. C'est pas le seul pays, bien sûr, d'Europe, mais pouvait s'enorgueillir d'avoir un système de santé public et de avec une médecine qui était performant et ce qu'on au point du reste que l'Organisation mondiale de la santé avait classé la France au début des années 2000 au premier rang mondial pour la performance de son système de santé. Je crois que le déclin qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, eh bien, annonce un recul et surtout un renversement des valeurs. Au fond, il y avait quelque chose qui consistait à dire la santé doit être protégée comme un bien public.
Et un bien suprême.
Comme un bien suprême, mais aussi de façon non plus abstraite, comme on peut le voir dans les religions, la philosophie, etc. Mais comme quelque chose de très concret, au point que en France, on a eu jusqu'à aujourd'hui ce courage social, disons, considérer que même des étrangers en situation irrégulière devaient bénéficier de soins parce que on ne peut pas laisser les gens mourir de leur maladie ou s'aggraver. Il y a de nombreuses raisons, y compris financières, pour cela, mais en tout cas il y avait cette idée. On voit que chaque année ce dispositif qui bénéficie aux étrangers en situation irrégulière est menacé, affaibli, contesté, et ça a été les récentes déclarations à nouveau du gouvernement, alors qu'on parle là de sommes qui sont relativement dérisoires au regard d'un budget de la santé. Donc il y a cette tradition en France d'avoir une médecine publique, c'est-à-dire une médecine de très haute qualité, mais considérée comme un bien public, elle est de plus en plus menacée, à la fois pour des populations les plus fragiles, comme celles que je viens de mentionner, mais aussi pour l'ensemble de la population aujourd'hui.
Assisterait-on, selon vous, Didier Fassin, à un changement de civilisation ? Pas seulement pour des raisons économiques, mais peut-être pour des raisons culturelles, intellectuelles, philosophiques. Serions-nous en train de vivre une sorte de déqualification de la vie même ?
Je n'irai pas jusqu'à parler de disqualification ou de déqualification de la vie de manière générale. Néanmoins, il y a, et dans votre propos, quelque chose qui est juste, c'est que certaines vies sont réellement déqualifiées. Et le modèle de société vers lequel on va est un modèle où on revendique les inégalités, où on les considère comme faisant partie d'un état normal de la vie, et ça ne concerne plus simplement les revenus ou le patrimoine, mais ça peut concerner jusqu'à la vie même.
Et pourquoi, selon vous, est-ce que il y aurait une sorte d'indifférence contagieuse qui nous menace tous et qui nous a peut-être atteints, quand on voit par exemple qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont mortes en Méditerranée, on a des estimations, on ne peut pas les compter, on ne peut pas mettre de visage, on ne peut pas mettre de nom, on ne peut pas mettre de population de cette disparition tragique. Donc, on est tous en quelque sorte aspirés par cette nébuleuse de l'indifférenciation qui nous gagne.
Alors, cette indifférence, elle est réelle. Et il suffit de voir le peu de réactions que l'annonce de naufrage de bateau qui est hebdomadaire, voire parfois quotidienne, suscite. Mais je crois que il faut voir qu'au-delà de cette indifférence, peut-être d'usure aussi de ces informations qui deviennent qui se banalisent, qui se routinisent, il faut voir le travail de répression qui l'accompagne. Et je crois que une des caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons et que le gouvernement actuel incarne de façon presque exemplaire, c'est le mélange de pratiques néolibérales dans le développement et l'accélération de la concurrence entre les gens, en laissant de côté ceux qui peuvent pas qui n'ont pas les moyens de la réussite, et simultanément d'un autoritarisme du reste maladroit, mais qui se manifeste aussi bien dans la répression des immigrés dont on détruit les tentes lorsqu'ils sont dans la rue, ou auxquels on refuse, même comme on l'a vu ces dernières semaines à Calais, auxquels on refuse même la distribution d'aliments, hein, qui est faite par des organisations non gouvernementales, et la maire vient s'opposer à cela, et heureusement un juge saisi par ces organisations a interdit cette pratique. Mais on voit le niveau où on peut arriver sans que le gouvernement, les députés, la collectivité politique française ne s'en émeuvent. Et vous avez commencé par une citation dans laquelle il était question de la répression des organisations humanitaires au sens large, c'est-à-dire les organisations qui essaient de sauver des vies en Méditerranée, sur la frontière des Alpes, au nord de la France également, ou bien simplement de donner des tentes, donner des aliments, essayer d'aider les gens à avoir des conditions dignes. On a ce triste mélange de ce néolibéralisme agressif et de cet autoritarisme maladroit qui est effectivement très préoccupant, parce que ça n'est pas seulement la France de surcroît, mais la France, contrairement à ce que certains voudraient penser, n'est certainement pas un exemple en Europe.
Dans votre leçon inaugurale, Didier Fassin, vous avez donné un exemple extrêmement concret de ce qui est déjà en train de nous menacer. Vous avez cité l'exemple de Thomas Schelling, qui en 1984 donne une illustration saisissante et à peine imaginaire lorsqu'il compare, je vous cite, la réaction du public sollicité d'un côté pour financer l'intervention chirurgicale onéreuse permettant de prolonger la vie d'une petite fille jusqu'à Noël, et de l'autre pour contribuer par une taxe spéciale à la réhabilitation des hôpitaux du Massachusetts afin de réduire le nombre de décès évitables. On a compris, le public, s'il est sollicité, ira plutôt du côté de la petite fille. Et ça n'a pas changé, même si Thomas Schelling a fait cette observation dans les années 1980. Pourquoi ?
Oui, alors c'est ce prix Nobel d'économie, effectivement, prend cet exemple pour montrer, au fond, que la manière dont nous abordons ces questions passe souvent par l'émotion plutôt que par la rationalité, puisque dans le premier cas, il y a toute la compassion que peut susciter, à juste titre du reste, une petite fille malade, mais dont on voit qu'elle est condamnée à mourir néanmoins, dans cet exemple, alors que les problèmes rencontrés par les hôpitaux du Massachusetts en l'occurrence sont des problèmes qui débouchent sur des disparités d'accès aux soins et de qualité des soins. Et donc il est de toute façon toujours beaucoup plus difficile aux gens en général, plus difficile d'appréhender des situations collectives que des situations individuelles. La dimension de proximité et la dimension de nationalité joue également dans ce sens, puisque on sait très exactement le nombre de soldats irakiens, de soldats états-uniens qui sont morts en Irak, mais on ne sait pas entre 150 000 et 1 million le nombre de personnes qui sont irakiennes qui sont décédées, dont la majorité, on le sait, sont des civils. Donc il y a comme ça des échelles de grandeur qui sont tout à fait incommensurables entre à la fois des situations proches et des situations éventuellement individuelles sur lesquelles on peut accrocher des histoires par rapport à ce que peuvent nous livrer des statistiques.
Eh bien, c'est une très bonne nouvelle que vous soyez nommé au Collège de France. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse vous écouter aussi bien sur Internet que au Collège de France. Vous allez nous expliquer quelle est la différence entre la valeur absolue et la valeur relative de la vie. Pensez-vous que vous allez être écouté par les tutelles gouvernementales pour faire évoluer cette situation ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de représentants de ces tutelles dans mon public, mais en tout cas, j'ai toujours, lorsque j'ai été sollicité sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours accepté de passer de mon statut, disons, de chercheur et d'un travail que j'essaye aussi rigoureux que possible pour comprendre des phénomènes à une posture de citoyen. Je suis président du comité pour la santé des exilés, par exemple, et nous travaillons au quotidien à la fois à la prise en charge médicale, sociale, juridique de ces personnes exilées, mais aussi à travers une activité d'interpellation avec d'autres associations, d'interpellation des pouvoirs publics sur les questions sur lesquelles nous travaillons. Donc je crois que il y a là une nécessité. Ce qu'on peut dire, c'est que probablement C'est pas un phénomène complètement récent, mais je crois qu'il est particulièrement marqué avec ce gouvernement. La place des chercheurs et la place des intellectuels, l'écoute dont ils bénéficient de la part des pouvoirs publics, s'est considérablement réduite.
Merci infiniment, Didier Fassin, et à très vite. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À Lille, sur la Grand Place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse, s'est levée, je l'ai perdu, j'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurit le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index, elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains, te dire qu'à Lille, sur la Grand Place, j'avais ton profil de face. Presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour.